Hadji Mourad de Léon Tolstoï. Traduction par J. Vladimir Bienstock, Nelson, 1912. Pour rentrer à la maison, j'avais pris par les champs. On était en plein milieu de l'été. Déjà l'herbe était fauchée et l'on se préparait à couper le seigle. À cette époque de l'année, il y a une merveilleuse variété de fleurs. Celles rouges, blanches, parfumées, duvetées, des trèfles. Les blanches marguerites au cœur jaune vif. La campanule jaune à l'odeur agréable et épicée. Avec leur senteur de miel, leurs hautes tiges grimpantes, les pois violets et blancs. Les scabieuses jaunes, rouges, roses. Le plantain lilas au duvet légèrement rosé, au subtil et agréable parfum. Les bluets bleus vifs au soleil, et quand ils sont récemment éclos, bleus rougeâtres le soir et quand ils sont à leur déclin. Et les fleurs fragiles, éphémères, à l'odeur d'amande, de la cuscute. J'avais cueilli un gros bouquet de ces différentes fleurs et rentré chez moi quand je remarquais dans le fossé une magnifique bardane violette, en pleine floraison, une de ces bardanes qu'on appelle chez nous tatar, que le faucheur coupe avec soin et qu'on rejette du foin pour ne pas se piquer les mains si elle a été fauchée par hasard. Il me revint l'idée d'arracher cette bardane et de la mettre au milieu de mon bouquet. Je descendis dans le fossé et, après avoir chassé un bourdon velu qui s'était accroché au milieu d'une fleur et s'y était endormi doucement, mollement, je me mis à arracher la plante. Mais c'était très difficile. Non seulement la tige piquait de tous côtés, même à travers le mouchoir dont j'avais entouré ma main, mais elle était si résistante que je luttais contre elle presque 5 minutes, la déchirant fibre par fibre. Quand enfin je l'eus détachée, la tige était tout en lambeaux, et la fleur ne paraissait déjà plus ni aussi fraîche ni aussi belle. Outre cela, à cause de sa rudesse, de sa raideur, elle n'allait pas du tout avec les fleurs délicates de mon bouquet. J'eus du regret d'avoir détruit en vain la fleur qui était si belle sur sa tige, et la jetai. Quelle énergie, quelle vitalité, me dis-je, me rappelant les efforts déployés pour l'arracher. Comme elle se défendait, et comme elle a chèrement rendu sa vie. Pour rentrer chez moi, je devais traverser des champs gras, fraîchement labourés, et gravissais la pente douce de la route poussiéreuse. Le champ labouré appartenait à un propriétaire. Il était très grand, de sorte que de chaque côté, ainsi que devant, en montant, on ne voyait rien sauf la terre noire d'un champ retourné avec une grande régularité. Le labourage était bon, et sur toute l'étendue du champ ne se voyait ni une plante, ni une herbe, tout était noir. Quel être destructeur, l'homme! Combien d'êtres vivants, sauf les plantes, détruit-il pour assurer son existence, pensais-je, en cherchant malgré moi quelque chose de vivant dans ce champ noir et mort. Devant moi, à droite de la route, une touffe quelconque se dressait. Je m'en approchai et reconnus cette même tatar dont j'avais arraché en vain et jeté une fleur. La touffe était formée de 3 tiges. L'une d'elles avait été en partie arrachée et le reste semblait un bras coupé. Chacune des 2 autres portait une fleur. Ces fleurs, primitivement rouges, maintenant étaient noirâtres. Une des tiges était brisée, et la partie supérieure, portant la fleur maculée, pendait vers le sol. L'autre, bien que couverte de boue noire, se dressait encore. On voyait que cette touffe avait été abattue par une roue, puis s'était redressée. C'est pourquoi elle restait penchée, mais tout de même debout. Il paraissait qu'on lui avait retranché une partie du corps, qu'on lui avait labouré les entrailles, arraché un bras, un œil, et cependant elle restait debout, ne cédant pas à l'homme qui avait détruit autour d'elle toutes les plantes, ses sœurs. Quelle énergie, pensais-je. L'homme a tout vaincu, il a détruit des millions d'herbes, mais celle-ci n'a pas cédé. Et je me rappelais une vieille histoire du Caucase, dont je fus témoin pour une partie, et que je tiens, pour une autre partie, de témoins oculaires. Quant au reste, c'est mon imagination qui l'a créée. Cette histoire, telle qu'elle s'est formée par l'union de mes souvenirs et de mon imagination, la voici. Chapitre 1er. C'était à la fin de 1851. Par une froide soirée de novembre, Hadji Mourad entrait dans l'aoul Majnet, d'où se dégageait la fumée odorante du kiziak. C'était un aoul non pacifié de Tchétchens, 6 à 20 verstes des possessions russes. Le chant monotone du muezzin venait de cesser, et dans l'air pur des montagnes, imprégné de l'odeur de la fumée du kiziak, on entendait distinctement, à travers les meuglements des vaches et les bêlements des brebis qui se dispersaient parmi les huttes de la houle, accolées les unes aux autres comme des alvéoles, les sons gutturaux de voix qui discutaient, des voix d'hommes, de femmes, d'enfants qui revenaient des fontaines. Ce Hadji Mourad était le caïd de Chamil, célèbre par ses exploits. Il ne sortait jamais sans ses insignes et escorté de quelques dizaines de murides qui galopaient autour de lui. Mais ce soir-là, il était enveloppé d'un bachlik et d'un manteau de drap à col de fourrure, dessous lequel apparaissait son fusil, et il était accompagné d'un seul muride. S'efforçant d'être aussi peu remarqué que possible, il fixait de ses mobiles yeux noirs les visages des habitants qu'il rencontrait sur son chemin. Parvenu au milieu de la houle, Hadji Mourad, au lieu de prendre la rue qui menait à la place, tourna à gauche dans une ruelle étroite. Devant la deuxième cabane, enfoncée dans le sol, qui se trouvait dans cette ruelle, il s'arrêta et regarda de tous côtés. Sous l'auvent, devant la cabane, il n'y avait personne, mais sur le toit, à côté des tuyaux fraîchement enduits d'argile, était couché un homme enveloppé d'un manteau de peau de mouton. Hadji Mourad toucha de sa cravache l'homme qui était couché sur le toit et fit claquer sa langue. De dessous le manteau de peau de mouton se souleva un vieillard en bonnet et vêtu d'un vieux béchmet luisant. Les yeux du vieillard étaient rouges, chastieux, sans cils, et pour les décoller, il remua les paupières. Hadji Mourad prononça le salut habituel, « Selam aleykoum » et découvrit son visage. « Aleykoum selam » prononça le vieillard en souriant de sa bouche édentée, car il avait reconnu Hadji Mourad. Il se dressa sur ses jambes maigres, chercha ses socques qui se trouvaient près du tuyau. S'étant chaussé sans se hâter, il endossa son manteau usé et descendit à reculons l'échelle accotée au toit. Tout le temps qu'il s'habillait et descendait, le vieillard remuait la tête et son cou maigre, ridé, bruni, et mâchonnait de sa bouche édentée. Aussitôt à terre, il saisit hospitalièrement la bride du cheval de Hadji Mourad ainsi que l'étrier de droite. Mais le muride d'Hadji Mourad, un homme leste, vigoureux, sauta rapidement de son cheval et, écartant le vieux, prit sa place. Hadji Mourad descendit du cheval et, en boitant légèrement, s'avança sous l'auvent. À sa rencontre, un garçon d'une quinzaine d'années sortit vivement sur le seuil et, surpris, fixa sur les voyageurs ses yeux brillants et noirs comme des cassis. « Cours à la mosquée, appelle ton père !» lui ordonna le vieillard, et, devançant Hadji Mourad, il ouvrit devant lui la légère porte grinçante donnant accès à la cabane. Au moment où Hadji Mourad franchissait le seuil, il se trouva face à face avec une femme, pas jeune, mince, maigre, vêtue d'un béchmet rouge jeté sur une chemise jaune et d'un pantalon bleu. Elle portait des coussins. « Heureuse soit ton arrivée, » dit-elle en s'inclinant profondément, et elle se mit à disposer les coussins contre le mur de devant, afin que les visiteurs pussent s'asseoir. « Que la vie garde tes fils, » répondit Hadji Mourad, en se débarrassant de son manteau, de son fusil et de son sabre, et remettant tout cela au vieillard. Celui-ci accrocha avec précaution le fusil et le sabre à un clou près des armes du maître, entre deux grands plateaux brillants suspendus au mur, bien peints et très blancs. Hadji Mourad, après avoir bien placé son pistolet à sa ceinture, s'approcha des coussins rangés sur le sol et, croisant soigneusement son vêtement, s'assit sur l'un d'eux. Le vieux s'assit près de lui, ferma les yeux et leva les mains, les paumes en dehors. Hadji Mourad en fit autant, puis tous deux récitèrent des prières, tout en passant sur leur visage leurs mains qui se rejoignaient à l'extrémité de la barbe. « Niekabar, c'est-à-dire « Qu'y a-t-il de nouveau ?» demanda Hadji Mourad au vieillard. « Kabar yok, c'est-à-dire « Rien de nouveau », répondit le vieux en regardant de ses yeux rouges, éteints, non le visage d'Hadji Mourad, mais sa poitrine. Je vis dans le rucher. C'est aujourd'hui seulement que je suis venu prendre des nouvelles de mon fils. Lui sait. » Hadji Mourad comprit que le vieux ne voulait pas dire ce qu'il savait et que lui avait besoin de savoir. Et faisant un léger signe de tête, il ne le questionna pas davantage. « Il n'y a rien de bon en fait de neuf, » se mit à dire le vieillard. « La seule nouvelle, que le lièvre continue toujours à se demander comment s'y prendre pour chasser les aigles. Et les aigles déchirent toujours tantôt l'un, tantôt l'autre. La semaine dernière, les chiens russes, qu'éclatent leurs visages, ont incendié le foin chez les habitants de Miguidsk, râla le vieux. » Le muride d'Hadji Mourad entra, déplaçant, sans bruit et à grands pas, ses jambes fortes sur le sol d'argile. Comme l'avait fait Hadji Mourad, il ôta son manteau, son fusil, son sabre, ne gardant que son poignard et son pistolet, et les suspendit au même clou que ceux de son maître. « Qui est-ce ? » demanda le vieillard à Hadji Mourad en désignant le nouveau venu. « Mon muride, il se nomme Eldar, » répondit Hadji Mourad. « Bon, » dit le vieux, et il indiqua une place à Eldar sur le tapis, près d'Hadji Mourad. Eldar s'assit les jambes croisées et fixa silencieusement ses beaux yeux de brebis sur le visage du vieillard devenu loquace. Le vieux racontait comment leur garçon avait capturé, la semaine passée, deux soldats, tué l'un et envoyé l'autre à Chamil. Hadji Mourad écoutait distraitement, en regardant la porte et prêtant l'oreille au son qui arrivait du dehors. Sous l'auvent, devant la cabane, des pas se firent entendre. La porte grinça, et le maître du logis entra. Il s'appelait Sado. C'était un homme d'une quarantaine d'années. Il avait une petite barbiche, le nez long, les yeux aussi noirs, bien que moins brillants que ceux de son fils, le garçon de 15 ans qui courait derrière lui et qui pénétra dans la cabane après son père et s'assit près de la porte. Encore près de la porte, le patron ôta ses socques, rejeta sur sa nuque son vieux bonnet usé, découvrant ainsi sa tête qui n'avait pas été rasée depuis longtemps et qui était couverte de cheveux noirs. Cela fait, il s'accroupit en face d'Hadji Mourad. Ainsi que le vieux, il ferma les yeux, leva les mains, les paumes en dehors, passa ses mains sur son visage et seulement alors commença à parler. Il raconta qu'il y avait l'ordre de Chamil de se saisir de Hadji Mourad, mort ou vif, que les émissaires de Chamil n'étaient partis que de la veille, que le peuple avait peur de désobéir à Chamil et qu'ainsi il fallait être très prudent. « Dans ma maison, dit Sado, moi vivant, personne ne touchera à mon kunak. Mais dehors, qu'arrivera-t-il ? Il faut y songer. » Hadji Mourad écoutait attentivement et hochait approbativement la tête. Quand Sado eut terminé, il dit « C'est bien. Maintenant, il faut envoyer chez les Russes un homme porter une lettre. Mon muride ira, seulement il lui faut un guide. » « J'enverrai mon frère Bata, » dit Sado. « Appelle Bata, » ordonna-t-il à son fils. Le garçonnet bondit sur ses jambes agiles comme sur un ressort et, en balançant rapidement les bras, sortit de la cabane. 10 minutes après, il retournait avec un Tchétchens au visage bronzé par le soleil, musculeux, les jambes courtes. Il était vêtu d'une tcherkesska jaune, déchirée de tous côtés, ses manches effrangées et d'un pantalon noir tombant bas. Hadji Mourad salua le nouveau venu et aussitôt, sans paroles inutiles, lui dit « Peux-tu conduire mon muride chez les Russes ?»« Parfaitement, » répondit gaiement Bata. « On peut tout faire. » « Aucun Tchétchène ne peut rivaliser avec moi. Un autre se chargera, promettra tout et ne fera rien. Mais avec moi, ce sera fait. » « C'est bon, » dit Hadji Mourad. « Pour ta peine, tu recevras 3. » Il lui montra 3 doigts. Bata hocha la tête pour indiquer qu'il avait compris. Mais il ajouta que ce n'était pas l'argent qui le tentait, qu'il était prêt à servir Hadji Mourad rien que pour l'honneur. Tous, dans les montagnes, savent comment Hadji Mourad a tué ces cochons de Russes. « C'est bon, » fit Hadji Mourad. « La corde est bonne quand elle est longue, et le discours quand il est bref. »« Bien, je me tairai, » dit Bata. « Tu connais l'endroit où l'Arguna tourne en face du précipice, là-bas, dans la forêt, il y a une clairière où se trouvent 2 meules. Tu connais ? Oui, je connais. Là-bas, trois de mes amis m'attendent sur des chevaux, dit Haji Mourad. Aya, fit Bata en hochant la tête. Tu demanderas Khan Magom. Khan Magom sait ce qu'il faut faire et dire. Il faudra le conduire au chef russe, au prince Vorontsov. Tu le pourras?
Je le pourrai.
Le conduire et le ramener. Tu le pourras?
Oui.
Tu le conduiras et tu retourneras dans la forêt.
J'y serai.
Ce sera fait, dit Bata, et il se leva, croisa les bras sur sa poitrine, s'inclina et sortit. Il faut aussi envoyer un homme à Tchéki, dit Haji Mourad au maître du logis, quand Bata fut sorti. Voici ce qu'il faudra faire, continua-t-il en prenant un bouton de sa tcherkeska. Mais aussitôt il baissa la main et se tut, car il venait d'apercevoir deux femmes entrer dans la cabane. L'une était la femme de Sado, cette même femme, pas jeune, maigre, qui avait posé les coussins. L'autre était une toute jeune fillette en pantalon rouge et bechmet vert. Une sorte de plastron faite de pièces d'argent lui couvrait toute la poitrine. À l'extrémité de sa natte noire, pas longue mais épaisse, serrée, tombant entre ses épaules et sur son dos maigre, était attaché un rouble en argent. Les mêmes yeux noirs, comme des cassis, que son père et son frère, éclairaient gaiement son visage jeune qui tâchait d'être sérieux. Elle ne regardait pas les visiteurs, mais on voyait qu'elle sentait leur présence. La femme de Sado portait une table basse, ronde, sur laquelle se trouvaient du thé, des crêpes au beurre, du fromage, du pain coupé en tranches minces et du miel. La fillette portait une cuvette, une cruche et des serviettes. Tout le temps que les femmes, en faisant tintinabuler leurs piécettes, circulèrent sans bruit dans leurs pantoufles rouges, souples, sans semelles de cuir, et placèrent devant les hôtes ce qu'elles avaient apporté, Sado et Haji Mourad se turent. Eldar, ses yeux de brebis fixés sur ses jambes croisées, resta immobile comme une statue tant que les femmes se trouvèrent dans la cabane, et il ne respira à l'aise qu'après qu'eut disparu derrière la porte le bruit léger de leurs pas. Haji Mourad tira une cartouche de la cartouchière de sa tcherkeska, et dans la gaine restée vide, prit un billet qui s'y trouvait. « Donne cela à mon fils, » dit-il en montrant le billet. « Où faudra-t-il apporter la réponse ?» demanda Sado. « Chez toi, et tu me la feras parvenir. »« Ce sera fait, » dit Sado, et il glissa le billet dans une de ses gaines à cartouches de sa tcherkeska. Ensuite, il prit la cruche et avança vers Haji Mourad la cuvette. Haji Mourad releva les manches de son bechmet au-dessus du poignet musclé de ses mains blanches et les plaça sous le jet d'eau froide, claire, que Sado lui versa de la cruche. Puis il les essuya avec une serviette propre, raide, et s'approcha des mets. Eldar fit la même chose. Pendant que ses hôtes mangeaient, Sado, assis en face d'eux, les remercia de leur visite. Le garçon, qui était assis près de la porte, fixait sur Haji Mourad ses yeux brillants, noirs, et souriait, comme pour confirmer par ce sourire les paroles de son père. Depuis plus d'un jour, Haji Mourad n'avait rien mangé. Cependant, il ne prit qu'un peu de pain et de fromage, et tirant de dessous son poignard un petit couteau, il le plongea dans le miel qu'il étendit sur son pain. « Notre miel est très bon. Cette année, il y a beaucoup de miel, et il est très bon, » dit le vieux, visiblement content qu'Haji Mourad ait pris de son miel. « Merci, » dit Haji Mourad, et il s'éloigna des mets. Eldar aurait bien mangé davantage, mais comme son chef, il s'éloigna de la table et présenta à Haji Mourad la cuvette et la cruche. Sado savait qu'en recevant Haji Mourad, il risquait sa vie, car depuis la querelle survenue entre Chamil et Haji Mourad, il était interdit à tout habitant de Tchétchnia, sous menace de mort, d'héberger Haji Mourad. Il savait que les habitants de Laoul pouvaient d'un moment à l'autre apprendre la présence de Haji Mourad dans sa maison et exiger qu'il le livrât. Mais cela non seulement ne troublait pas Sado, mais le réjouissait. Pour lui, c'était un devoir de défendre son hôte, dû cela lui coûter la vie, et il se réjouissait et était fier de lui parce qu'il agissait comme il le devait. « Tant que tu es dans ma maison et ma tête sur mes épaules, personne ne te fera rien, » répéta-t-il à Haji Mourad. Hajimurad fixa sur lui ses yeux brillants, et ayant compris qu'il disait vrai, il prononça solennellement « Que tu aies la joie et la vie !» Sado, sans mot dire, croisa ses mains sur sa poitrine en signe de reconnaissance pour cette bonne parole. Après avoir fermé les volets de la cabane et préparé des branches pour le feu, d'humeur particulièrement gaie et animée, sortit de la partie de sa demeure réservée aux hôtes et entra dans celle où vivait sa famille. Les femmes ne dormaient pas encore et parlaient des hôtes dangereux qui passaient la nuit chez eux. Chapitre 2. Cette même nuit, trois soldats, accompagnés d'un sous-officier, quittaient la forteresse d'avant-garde, Vostvijenskaya, 6 à 15 verstes de la houle où passait la nuit Hadji Mourad, derrière les portes de Chagirinsk. Les soldats étaient en pelisse courte de peau de mouton et bonnet de fourrure. Leurs manteaux roulés mis en travers des épaules, et ils étaient chaussés de bottes dont la haute tige dépassait le genou, comme les portaient alors les soldats du Caucase. Les soldats, le fusil à l'épaule, marchèrent d'abord sur la route. Après environ 500 pas, ils quittèrent la route, firent une 20aine de pas sur leur droite, en écrasant sous leurs bottes les feuilles sèches, puis s'arrêtèrent près d'un platane brisé dont on apercevait le tronc noir dans l'obscurité. C'était là, près de ce platane, qu'on envoyait ordinairement le guet. Les étoiles brillantes qui semblaient courir au-dessus de la cime des arbres pendant que les soldats marchaient dans la forêt, maintenant paraissaient immobiles entre leurs branches nues. « Sacrebleu !» dit rageusement le sous-officier Panoff, en ôtant de son épaule son long fusil, armé de la baïonnette, et, avec un cliquetis, l'accotant au tronc de l'arbre. Les trois soldats se débarrassèrent également. « Ça y est, je l'ai perdu !» grommela avec humeur Panoff. « Je l'ai oublié, ou perdu en route. »« Qu'est-ce que tu cherches ?» demanda l'un des soldats d'une voix gaie, réjouie. « J'ai perdu ma pipe, diable, c'est tout !»« Et le tuyau, il est là ?» demanda la voix enjouée. « Le tuyau, le voilà !»« Alors, enfonce-le dans la terre !»« Oh non, ce n'est pas possible !»« Nous allons arranger cela d'un tour de main !» Il était interdit aux gais de fumer, mais celui-là n'était pas très rigoureux. C'était plutôt une garde d'avant-poste qu'on envoyait afin que les montagnards ne pussent, comme ils l'avaient fait autrefois, avancer imperceptiblement un canon et tirer sur la forteresse. Aussi Panoff ne trouvait-il pas nécessaire de se priver du plaisir de fumer et acquiesça-t-il à la proposition du joyeux soldat. Celui-ci sortit de sa poche un couteau, se mit à creuser dans le sol un petit trou dont il aplatit soigneusement toutes les aspérités. Puis il mit du tabac dans le trou, y ajusta le tuyau et la pipe se trouva prête. Le briquet brilla, éclairant pour un moment le visage musclé d'un soldat qui était couché sur le ventre. Un sifflottement se fit entendre dans le tuyau, et Panoff sentit l'odeur agréable du tabac. « C'est fait ? » dit-il en se relevant. « Sans doute. »« Quel gaillard tu es, Avdeyev, un inventeur, ma foi. Eh bien, laisse-moi. » Avdeyev s'écarta pour donner la place à Panoff et laissa échapper la fumée de sa bouche. Panoff se coucha sur le ventre et, après avoir essuyé le tuyau avec sa manche, se mit à fumer. Quand il eut fini de fumer, la conversation s'engagea entre les soldats. On dit que notre capitaine a de nouveau emprunté à la caisse. Il a perdu au jeu, commença l'un des soldats d'une voix paresseuse. Il rendra, dit Panoff. Sans doute, c'est un brave officier, confirma Avdeyev. Bon, bon, continua sombrement celui qui avait entamé la conversation. Selon moi, il faut que la compagnie lui en touche un mot. S'il a pris, il faut qu'il dise combien et quand il rendra. Comme la compagnie décidera, dit Panoff, lâchant pour un moment la pipe. C'est certain que la communauté est un grand personnage, confirma Avdeyev. Il faut acheter de l'avoine, de nouvelles bottes pour le printemps. On a besoin d'argent, et comme il l'a pris, insista le mécontent. Je dis comme la compagnie décidera, répéta Panoff. Ce n'est pas la première fois. Il a pris et il rendra. À cette époque, au Caucase, chaque compagnie gérait ses affaires par ses élus. Elle recevait l'argent du trésor, 6 roubles 50 kopecks par homme, et se nourrissait elle-même, plantait les choux, fauchait le foin, avait ses chariots et était fière de ses chevaux gras et bien nourris. Quant à l'argent de la compagnie, Il se trouvait dans une caisse dont le commandant de la compagnie avait la clé, et il arrivait souvent que celui-ci faisait des emprunts à la caisse. C'était précisément ce qui venait de se produire et dont s'entretenaient les soldats. Le soldat mécontent, Nikitin, voulait qu'on exigeât des comptes du capitaine, mais Panov et Avdeyev ne trouvaient pas cela nécessaire. Après Panov, ce fut au tour de Nikitin de fumer. Il mit sous lui son manteau et s'assit en s'adossant à l'arbre. Les soldats demeurèrent silencieux. On n'entendait que le frôlement du vent, très haut au-dessus des têtes, sur la cime des arbres. Tout à coup, à travers ce doux bruissement, s'entendirent le hurlement, le cri, les pleurs, le rire des chacals. « Ah, les maudits, comme ils hurlent !» dit Avdeyev. « Ils se moquent de toi, à cause de ta gueule de travers !» prononça d'une voix aiguë de petit Russien le quatrième soldat. De nouveau, tout redevint silencieux, seul le vent agitait les branches des arbres, tantôt découvrant, tantôt cachant les étoiles. « Dis donc, Antonitch, » demanda tout d'un coup à Panov le joyeux Avdeyev, « est-ce qu'il t'arrive de t'ennuyer ?»« Qu'est-ce que c'est que l'ennui ?» répondit nonchalamment Panov. « Et moi, il m'arrive de m'ennuyer tellement, tellement qu'il me semble que je ne saurais pas même que faire de moi. »« Tiens, » dit Panov. L'argent que j'ai autrefois dépensé à boire, c'était l'ennui. Ça me saisit, et je pense, si je me saoulais. Mais parfois, après le vin, c'est encore pire. Oui, cela arrive, mais qu'y faire? Mais pourquoi t'ennuies-tu ainsi? Moi? Mais je m'ennuie après la maison. Quoi, est-ce qu'on vivait si richement chez toi? Pas richement, mais on était à l'aise. C'était une bonne vie. Et Avdeyev se mit à raconter ce qu'il avait raconté déjà plusieurs fois au même Panov. « Je me suis engagé de plein gré, à la place de mon frère, » dit Avdeyev. Il avait 5 enfants, tandis que moi je venais de me marier. C'est la mère qui m'a supplié. J'ai pensé, « Eh bien, qu'est-ce que cela me fait? Ils se rappelleront peut-être le bien que je leur fais. Je suis allé trouver notre maître. C'est un bon maître. Et il m'a dit, « Tu es un brave garçon, va !» Et voilà, c'est comme ça, je me suis engagé pour mon frère. Ça, c'est bien, dit Panov. Oui, mais le croirais-tu, Antonitch, maintenant je m'ennuie. Et je m'ennuie surtout parce que je me suis engagé pour mon frère. Lui, maintenant, il règne. Et moi, voilà, je me tourmente. Et plus j'y songe, plus ça m'ennuie. Évidemment, c'est déjà un péché. Avdeyev se tut. Veux-tu encore fumer? Demanda-t-il. « Je veux bien, arrange-moi ça. » Mais les soldats n'eurent pas le loisir de fumer. Pendant qu'Avdeyev se levait pour aller préparer de nouveau la pipe, on entendit, au milieu du bruit du vent, des pas sur la route. Panov saisit son fusil et poussa du pied Nikitin. Nikitin se leva et ramassa son manteau. Le troisième, Bondarenko, se leva également. « Et moi, mes frères, qui faisaient un tel rêve !» Avdeyev lui fit un chute, et les soldats se tinrent aux écoutes. Des pas sourds, d'hommes non chaussés de bottes, s'approchaient. On entendait de plus en plus distinctement, dans l'obscurité, l'écrasement des feuilles et des branches sèches. Puis on perçut une conversation en 7 langues particulières, gutturales, des Tchétchènes. Maintenant, les soldats non seulement entendaient, mais ils distinguaient entre les arbres 2 ombres qui se déplaçaient. L'une d'elles était plus courte, l'autre plus allongée. Quand les ombres furent tout près des soldats, Panov mit le fusil en joue et ses 2 camarades bondirent sur la route. « Qui va là ? » cria Panov. « Un Tchétchène pacifique !» prononça le plus petit. C'était Bata. « Fusil yok, sabre yok !» dit-il en se montrant. « Il me faut arriver au prince !» L'autre, de plus haute taille, restait près de son compagnon sans mot dire. Lui non plus n'avait pas d'armes. « C'est un émissaire envoyé au colonel, » expliqua Panov à ses camarades. « Prince Vorontsov, grand besoin de lui, affaire importante. »« Bon, bon, on va te conduire, » dit Panov. « Eh bien, toi et Bondarenko, » s'adressa-t-il à Avdeyev, « conduisez-les, et quand vous les aurez remis au planton de service, revenez ici. »« Mais prends garde, » ajouta Panov, « ordonne-leur de marcher devant vous. » « Et ça, qu'est-ce que c'est ?» dit Avdeyev, en faisant le simulacre de piquer quelqu'un avec la baïonnette ajustée au canon de son fusil. Je piquerai une fois et la vapeur sortira.
Mais à quoi sera-t-il bon si tu le piques ?
Remarqua Bondarenko.
Eh bien, en route !
Quand s'éteignit le bruit des pas des deux soldats qui accompagnaient les émissaires, Panoff et Nikitine regagnèrent leur poste.
Le diable les emporte de marcher en pleine nuit, dit Nikitine.
Probablement une affaire urgente, dit Panoff.
L'air est devenu frais, ajouta-t-il, et dépliant son manteau, il le mit sur lui et s'assit contre un arbre.
2 heures plus tard, Avdeyev et Bondarenko étaient de retour.
Eh bien, les as-tu remis ? Demanda Panoff.
Oui, chez le colonel, on ne dormait pas encore. Nous les avons amenés directement chez lui.
Et quels braves garçons, et quels drôles de corps ils sont, continua Avdeyev.
Ce que nous en avons raconté avec eux.
Toi, tu es un bavard connu, dit Nikitine bourru.
Vrai, tout à fait des Russes. L'un est marié, de braves garçons.
Oui, brave, dit Nikitine.
Qu'ils te rencontrent seul, et ils te sortiront les tripes.
Le soleil ne va pas tarder à se lever, dit Panoff.
Oui, les étoiles commencent à s'éteindre, dit Avdeyev en s'installant.
Et de nouveau, les soldats se turent.
Chapitre 3. Les fenêtres de la caserne et des petites cabanes des soldats étaient noires depuis longtemps, mais celles d'une des plus importantes maisons de la forteresse étaient encore éclairées. Cette maison était occupée par le commandant du régiment de Kouransk, le prince Simon Mikhailovitch Vorontsov, aide de camp de l'empereur, fils du général commandant en chef. Vorontsov habitait là avec sa femme, Marie Vassilievna, célèbre beauté de Pétersbourg, et il vivait dans cette petite forteresse du Caucase avec un tel luxe que personne ici n'avait jamais rien vu de pareil. Vorontsov, et surtout sa femme, trouvaient qu'il menait ici une vie plus que modeste, faite même de privations, tandis que cette vie étonnait les habitants du pays par son luxe extraordinaire. À minuit, dans un grand salon au parquet recouvert de tapis, dont les lourdes portières étaient baissées, les maîtres de la maison et leurs hôtes étaient assis devant une table à jeu, éclairée de 4 bougies, et jouaient aux cartes. L'un des joueurs était le maître de la maison lui-même, le colonel Vorontsov. Il était blond, le visage allongé. Il portait les aiguillettes et le chiffre d'aide de camp de l'empereur. Son partenaire était un licencié de l'université de Pétersbourg, que la princesse Vorontsov avait fait venir récemment pour être le précepteur de son fils, né d'un premier mariage, un garçonnet chevelu à l'air morne. En face d'eux étaient assis 2 officiers, l'un Poltoratsky, au large visage rouge, qui, de la garde, avait été nommé commandant d'une compagnie, l'autre l'aide de camp du colonel, un officier qui se tenait très droit et dont le joli visage gardait une expression très froide. La princesse Marie Vassilievna était, elle, une femme grande, avec de grands yeux, des sourcils noirs, une vraie beauté. Elle était assise près de Poltoratsky. Sa crinoline touchait son pied et regardait son jeu. Dans ses paroles, ses regards, son sourire, dans tous les mouvements de son corps et dans les parfums qui s'exhalaient de sa personne, il y avait quelque chose qui amenait Poltoratsky à l'oubli de tout, sauf la conscience de sa présence. Et il faisait faute sur faute, irritant de plus en plus son partenaire.
« Oh non, c'est impossible. Il a encore laissé passer l'as », prononça tout à coup l'aide de camp à une faute de Poltoratsky.
Celui-ci, comme s'il venait de s'éveiller et ne comprenait pas de quoi il était question, regardait de ses bons yeux noirs, largement écartés, l'aide de camp mécontent.
« Eh bien, pardonnez-lui, » intervint Marie Vassilievna en souriant.
« Vous voyez, je vous l'avais dit, » s'adressa-t-elle à Poltoratsky.
« Vous m'aviez dit juste le contraire, » remarqua Poltoratsky en souriant.
« Est-ce que je n'avais pas dit cela ? » fit-elle et sourit aussi.
Et ce sourire de retour avait tellement ému et réjoui Poltoratsky qu'il devint tout rouge et, saisissant les cartes, se mit à les battre.
« Ce n'est pas à toi de donner, » dit sévèrement l'aide de camp.
Et prenant les cartes dans sa main blanche ornée de bagues, il se mit à les distribuer comme s'il avait hâte de s'en débarrasser au plus vite.
Le valet de chambre du prince entra au salon et annonça que le soldat de service demandait le prince.
« Excusez-moi, messieurs, » dit le prince, en russe avec l'accent anglais.
« Marie, veux-tu prendre ma place ?»«
Vous consentez ?» demanda la princesse,
se levant de toute sa haute taille, en faisant frofrotter sa robe de soie et souriant de son sourire brillant de femme heureuse. « Je consens toujours à tout, » dit l'aide de camp, très content d'avoir pour adversaire la princesse qui n'avait aucune idée du jeu. Quant à Poltoratski, il écarta seulement les bras en souriant. Le robe touchait à sa fin quand le prince retourna au salon. Il paraissait particulièrement excité, gai. « Savez-vous ce que je vous propose ?»«
Quoi ? Buvons le champagne. »«
À cela, je suis toujours prêt, » dit Poltoratski.
« Mais c'est très agréable, » dit l'aide de camp.
« Vassili, servez, » ordonna le prince.
« Pourquoi a-t-on appelé ? » demanda Marie Vassilievna.
« C'était le planton de service et un homme. »«
Qui ? Quoi ? » demanda rapidement Marie Vassilievna.
« Je ne puis pas le dire, » répondit Vorontsov en levant les épaules.
« Tu ne peux pas le dire, » répéta Vassilievna.
« Nous verrons cela. » On apporta le champagne. Chacun des hôtes en but une coupe. Puis, après avoir terminé le jeu et fait les comptes, ils commencèrent à prendre congé.
« C'est votre compagnie qui va demain dans la forêt ?» demanda le prince à Poltoratski.
« Oui, la mienne. Pourquoi ?»«
Nous nous reverrons demain, » dit le prince en souriant imperceptiblement.
« Très heureux, » dit Poltoratski, ne comprenant pas très bien ce que lui disait Vorontsov, et soucieux seulement de la façon dont, tout à l'heure, il serrerait la main de Marie Vassilievna. Marie Vassilievna, comme toujours, non seulement serra la main de Poltoratski, mais la lui secoua. Et, après lui avoir rappelé encore une fois la faute qu'il avait faite en jouant carreau, elle lui sourit d'un sourire qui parut à Poltoratski charmant, tendre et significatif. Poltoratski rentra chez lui dans cet état d'enthousiasme que seuls peuvent comprendre les hommes qui ont grandi, ont été élevés dans le monde, et qui, après des mois de la vie militaire, isolés, rencontrent de nouveau une femme de leur ancien milieu, et encore une femme comme la princesse Vorontsov. Arrivé devant la petite maison où il demeurait avec un camarade, il poussa la porte d'entrée, mais elle était fermée. Il frappa, la porte ne s'ouvrait pas. Irrité, il se mit à frapper du sabre et du pied dans la porte fermée. Des pas se firent entendre, et Vavilo, le domestique serf de Poltoratski, tira le verrou.
« Pourquoi as-tu trouvé nécessaire de fermer, imbécile ?»«
Mais est-il possible, Alexis Vladimirovitch ? Tu es encore ivre. Je te montrerai si c'est possible. » Poltoratski voulut frapper Vavilo, mais se ravisa. « Que le diable t'emporte ! Allume la chandelle !»«
Tout de suite. »
Vavilo, en effet, était ivre. Il avait bu parce qu'il avait assisté à la célébration de la fête d'un gardien de l'arsenal. Rentré à la maison, il s'était mis à réfléchir à sa vie, la comparant à celle d'Ivan Matveïevitch, le gardien de l'arsenal. Ivan Matveïevitch avait des revenus, était marié et dans un an prendrait sa retraite. Vavilo, lui, étant encore enfant, avait été pris pour le service des maîtres et maintenant il avait déjà plus de 40 ans, n'était pas marié et vivait de la vie de camp avec son maître désordonné. Le maître était bon, ne le battait pas trop, mais quelle vie était-ce ? Il lui avait bien promis de l'affranchir à son retour du Caucase. « Mais où irai-je avec ma liberté ? C'est une vie de chien, » pensait Vavilo. Et il s'était senti une telle envie de dormir que, craignant qu'on ne vînt voler pendant son sommeil, il avait d'abord poussé le verrou et s'était endormi. Poltoratski entra dans la chambre qu'il partageait avec son camarade Tikhonov. « Eh bien, tu as perdu ?» lui demanda Tikhonov, qui s'éveilla. « Non, j'ai gagné 17 roubles, et nous avons bu une bouteille de cliquot. »«
Et tu as mangé des yeux Marie Vassilievna ?»«
Oui, j'ai regardé Marie Vassilievna, » dit Poltoratski.
« Il va falloir se lever bientôt, » dit Tikhonov. « Notre compagnie sort à 6 heures. »«
Vavilo !» cria Poltoratski. « Aie bien soin de m'éveiller à 5 heures. »«
Comment vous éveillez quand vous me battez ?»«
Je te dis de m'éveiller. Tu m'entends ?»«
J'obéis. »
Vavilo sortit, emportant les bottes et les effets, et Poltoratski se mit au lit. En souriant, il alluma une cigarette et éteignit la chandelle. Dans l'obscurité, il voyait devant lui le visage souriant de Marie Vassilievna. Chez les Vorontsov, on ne se coucha pas tout de suite. Après le départ des hôtes, Marie Vassilievna s'approcha de son mari et, s'arrêtant devant lui, lui demanda sévèrement
Eh bien, allez-vous me dire ce que c'est ?
Mais, ma chère, pas de ma chère, c'est un émissaire, n'est-ce pas ?
Quand même, je ne puis pas vous le dire.
Vous ne pouvez pas, alors c'est moi qui vais vous le dire.
Vous ?
Hadji Mourad,
oui ?
Fit la princesse qui savait que depuis quelques jours, il était question de pourparler avec Hadji Mourad, et supposant que c'était lui-même qui était venu chez son mari.
Vorontsov ne pouvait nier, mais il déçut sa femme en lui apprenant que ce n'était pas Hadji Mourad en personne qui était venu, mais un émissaire envoyé pour l'informer que Hadji Mourad viendrait le trouver demain à l'endroit désigné pour la coupe de la forêt. Vu la monotonie de la vie dans la forteresse, le jeune couple Vorontsov était très heureux de cet événement. Après avoir parlé du plaisir que causerait à leur père cette nouvelle, le mari et la femme s'allèrent coucher. Il était 3 heures du matin.